Et le journal de la rédaction vous est présenté par Clara Lecoq-Réal. Bonjour Clara.
Bonjour Julie, bonjour à tous. D'abord les Bleus 2018, applaudis hier soir par une large partie des Français. 20 ans et 4 jours après 98, ils sont de nouveau champions du monde de football grâce à un 4-2 contre la Croatie hier soir. Nuit de fête partout dans le pays, les drapeaux, les klaxons, les chants, la Marseillaise par exemple, et ce cri d'un des joueurs, Antoine Griezmann, entre-temps. La marée humaine sur les Champs-Élysées, qui devrait réapparaître en fin d'après-midi aujourd'hui. L'équipe de France y défilera avant de rejoindre l'Élysée, de rejoindre Emmanuel Macron, qui lui aussi est rentré de Moscou après une soirée qu'il a vécue jusque dans les vestiaires. Il exultait avec les Bleus qui ont, dit-il, porté tout le pays. Et pour le sociologue Albrecht Sonntag, ces célébrations sont de l'ordre du surinvestissement.
C'est une symbolique un peu démesurée, mais qui correspond visiblement à un besoin partagé d'avoir parfois des incarnations emblématiques de la nation devant soi, dans laquelle on peut projeter une communauté un peu imaginée aux occasions des grands tournois. Il y a un surinvestissement symbolique parce que ce n'est qu'un jeu. 22 gars en short qui courent après un ballon. Donc ce n'est qu'un jeu, c'est évident. Donc tout ce qu'on projette sur le football de manière très spontanée, c'est par définition trop. Il n'y a aucune commune mesure avec la véritable signification d'une Coupe du Monde. Une Coupe du Monde, c'est un événement qui met en scène les meilleurs dans une pratique qui est assez appréciée autour du globe. Mais ça s'arrête là. Donc tout ce qu'on fait de cet événement par la suite est par définition un surinvestissement symbolique.
Le sociologue Albrecht Sonntag, interrogé par Bastien Roch. Après avoir assisté à cette finale entre la France et la Croatie, Vladimir Poutine, président russe, rencontre aujourd'hui Donald Trump en terrain neutre à Helsinki en Finlande, avec pour objectif affiché de commencer à rétablir les relations bilatérales entre Moscou et Washington. Et c'est d'ailleurs le premier sommet bilatéral entre les deux hommes à la tête de deux puissances mondiales et au dessin bien différent, Quentin Dickinson.
D'un côté, il y a Vladimir Poutine, calculateur froid, organisé, à la brutalité verbale préméditée et soigneusement ciblée. De l'autre, il y a Donald Trump, qui se targue de ne jamais lire un dossier et de ne jamais préparer ses rencontres à quelque niveau qu'elles soient. L'objectif de l'Américain, c'est de remettre en cause, au nom d'une logique simplement comptable, toutes les structures des relations multilatérales qui, tant bien que mal, ont assuré depuis 1945 un minimum de paix, de prospérité et de stabilité entre nations du monde. L'objectif du Russe, c'est d'exercer partout une influence sans commune mesure avec l'état de l'économie de son pays, au prix d'une renaissance de sa puissance militaire et d'une manipulation par réseaux sociaux interposés de l'opinion des pays occidentaux. Pour l'Américain, le Russe est un personnage à sa mesure, qu'il n'aura aucune peine à convaincre de la pertinence de sa vue du monde nouveau, de l'Amérique d'abord. Pour le Russe, ravi de l'affaiblissement de l'OTAN, des Nations Unies, du G7 et de l'UE qu'entraîne l'activité de M. Trump, l'Américain est parfaitement assimilable à la notion d'idiot utile, chère depuis un siècle à la propagande soviétique.
Voilà pour les positions de chacun, cinglantes, mais les sujets qui fâchent n'empêcheront pas Donald Trump et Vladimir Poutine de s'entendre sur certaines questions précises. C'est ce qu'estime en tout cas Yves Boyer de la Fondation pour la Recherche Stratégique.
Il y a la lutte antiterroriste et là, il y a des échanges qui peuvent se faire entre services de renseignement sur les mouvements terroristes, sur la où en est Daesh, etc. Sur la Syrie, on voit bien qu'aujourd'hui, c'est les Russes qui mènent un peu la danse et les Américains avec Trump songe à se retirer de Syrie. Donc il y a un certain nombre de points qui peuvent faire l'objet de discussions. J'évoquerai également les problèmes énergétiques, où là il y a peut-être aussi des choses à discuter ensemble, même si évidemment les deux pays ne sont pas du tout dans la même posture. Il y a la question ukrainienne qui, un jour ou l'autre, devra faire l'objet d'un règlement. Il y a l'histoire des sanctions qui ne peuvent pas durer éternellement. Donc on voit bien qu'il y a un certain nombre de sujets difficiles dont il faut discuter, et que les deux présidents vraisemblablement abordent bureau. La diplomatie, c'est pour discuter avec ceux qui n'ont pas forcément les mêmes opinions que vous.
Yves Boyer, interrogé pour France Culture par Nabila Hamel. Et avant même le début de cette rencontre, Donald Trump a tenté d'allumer un autre feu ailleurs, de détourner l'attention. Dans une interview à CBS hier, le président américain qualifie l'Union européenne et la Chine d'ennemis commerciaux. Une attaque verbale alors que leurs représentants s'entretiennent aujourd'hui à Pékin. Le président du Conseil européen sera présent ainsi que le chef de la Commission européenne. Ils vont donc rencontrer le président chinois Xi Jinping. Et face à Washington, ils apparaissent comme des alliés de circonstance, Angélique Forger.
Faire front contre le protectionnisme de Donald Trump, voici ce que la Chine espère de sa relation avec Bruxelles. Dans le bras de fer commercial qu'elle se livre avec les États-Unis depuis plusieurs mois maintenant, la Chine a besoin d'alliés. Et pour séduire Bruxelles, elle se pose en chantre du libéralisme, assure qu'elle veut poursuivre sa politique d'ouverture commerciale et de réduction des tarifs douaniers. C'est ce que le président chinois Xi Jinping va répéter à l'envi devant les responsables européens. L'objectif pour Pékin, c'est de négocier de meilleurs accès aux marchés européens et de montrer à Donald Trump que la Chine peut se passer des débouchés américains. Ces souhaits de rapprochement parviendront-ils à effacer les divergences qui opposent l'Union européenne à la Chine ? Les 28 reprochent notamment à Pékin d'injustes transferts de technologies et Pékin regrette que Bruxelles s'oppose à son statut d'économie de marché devant l'OMC, ce que les États-Unis rejettent eux aussi. Pékin le sait, la délégation européenne attend des propositions de mesures concrètes du côté chinois. La Chine pourrait notamment ouvrir davantage de secteurs de son marché aux entreprises européennes et avancer dans le traité bilatéral d'investissement bloqué depuis plusieurs années.
Des violences toujours au Nicaragua. Au moins 10 personnes ont été tuées hier dans des attaques lancées par les forces gouvernementales. Plusieurs localités aux mains des rebelles dans le sud du pays ont été visées. Le véhicule d'un évêque l'était également. Le bilan fait état d'au moins 282 morts en 3 mois dans le pays. Et puis, en bref encore, l'islamiste Jamel Begal va sortir de prison aujourd'hui. Il était le mentor de Sherif Kouachi et Hamedi Koulibaly, auteur des attentats de Charlie Hebdo en 2015. Jamel Begal a fini de purger une peine de prison de 10 ans de prison. La France ne souhaite pas le garder sur son territoire. Elle dit avoir obtenu l'accord d'Alger pour l'extrader. Une météo agitée ce lundi avec des orages et de fortes pluies dès ce matin sur le sud-ouest. Tout cela va se décaler vers la Méditerranée et sur tout l'est du pays dans l'après-midi. Un ciel nuageux partout ailleurs, notamment sur la Bretagne, la Normandie et l'Aquitaine. Les températures comptaient entre 20 et 23 degrés ce matin à l'ouest, 23 à 27 sur l'est.